Trois Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 29 janvier 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En République démocratique du Congo, au moins 15 personnes ont été tuées en 24 heures dans le territoire de Beni. L'armée malienne peut commencer à se diriger vers Kidal dès le 1er février, a indiqué la MINUSMA. Réaction prudente dans le monde arabe au plan de paix de Donald Trump pour le Proche-Orient, rejeté par les autorités palestiniennes. L'Organisation mondiale de la santé appelle la communauté internationale à agir face au coronavirus qui a fait 132 morts. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Nouvelle tuerie en République démocratique du Congo, où au moins 15 personnes ont été tuées en 24 heures dans le territoire de Beni, dans l'est du pays. Jacques Aristide nous en dit plus.
Ce n'est qu'un bilan provisoire, d'après l'administrateur du territoire de Beni, Donat Kibwana. Pour l'heure, 14 corps ont été retrouvés, des habitants tués à l'arme blanche. Un pasteur a trouvé la mort dans une autre attaque. Deux blessés graves ont été transférés à l'hôpital d'Oicha. Ces dernières attaques portent à 265 le nombre de civils tués à Beni depuis le début de novembre dernier, selon les chercheurs du baromètre sécuritaire du Kivu, qui dispose d'un réseau d'informateurs dans les deux provinces du Kivu. Le groupe armé d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées est à l'origine de ces attaques, d'après l'administrateur du territoire. L'armée congolaise indique avoir conquis le QG et tué 5 des 6 chefs des ADF depuis le début de son offensive, le 30 octobre dernier, dans les forêts et la jungle autour de Beni. Les ADF sont accusés d'avoir massacré plus de 1000 civils dans la région de Beni depuis 2014. Au cours de ces 3 derniers mois, ils ont intensifié leur tuerie contre les civils en représailles aux opérations militaires.
Au Cameroun, 5 civils ont été tués la nuit dernière lors d'une attaque attribuée aux djihadistes près du lac Tchad. Irénée Hermanongbo nous en dit plus.
Le bilan a été confirmé par un officier de l'armée dans la région. En dehors des morts, 2 militaires ont été blessés, a indiqué ce responsable militaire, précisant qu'un poste de l'armée a été incendié. Depuis plusieurs mois, les attaques djihadistes se sont intensifiées autour du lac Tchad, truffées d'îlots et de marécages. La faction de Boko Haram, affiliée au groupe de l'État islamique, est particulièrement active dans la zone. Ses combattants ont attaqué le poste la nuit dernière. Il y a eu des affrontements et les militaires ont fait un repli stratégique parce que les assaillants étaient plus nombreux, a indiqué un autre responsable de la commune de Blangoua. Selon lui, des civils ont été abattus à leur domicile par des assaillants à la recherche de militaires. Selon l'officier, les 2 derniers mois de 2019 ont enregistré une montée exponentielle d'attaques qui ont continué ce mois-ci et qui risquent d'augmenter avec l'arrivée de la saison sèche.
Et le bilan de l'attaque samedi par des djihadistes de Silgadji, village du nord du Burkina Faso, où des hommes ont été exécutés, s'élève à 39 morts, a annoncé le gouvernement. Dimanche, des habitants de Silgadji, dans la province du Soum, fuyant le massacre, sont arrivés à Bourzanga. L'armée malienne peut commencer à se diriger vers Kidal dès le 1er février, a indiqué la MINUSMA. Une commission technique réunie le 24 janvier au quartier général de la mission onusienne à Bamako a fait le point sur divers aspects du retour des forces armées. Les douanes sénégalaises ont mis la main sur plus de 16 millions de dollars de cocaïne à bord du même navire resté à quai sur lequel avaient déjà été saisis près de 800 kilos. 7 mois auparavant, ont-elles indiqué aujourd'hui. Les douanes et la police ont découvert mardi 120 kilos de cette drogue sur le Grande Nigeria, bateau en provenance du Brésil et à destination de l'Angola. La drogue se trouvait dans le système de ventilation. La Chine demande à ses ressortissants récemment arrivés ou revenus en Mauritanie de rester confinés pendant 14 jours, au moins pour empêcher la propagation éventuelle du nouveau coronavirus, indique l'ambassade chinoise à Nouakchott, bien que rien n'indique que cette démarche soit motivée par une situation particulière. Les fonctionnaires du Zimbabwe ont accepté une première hausse immédiate de leur salaire qui éloigne la perspective d'une grève contre la vie chère. L'inflation qui sévit depuis plusieurs mois dans le pays a considérablement érodé le pouvoir d'achat des agents de la fonction publique dans un pays subissant une crise économique et financière. Selon le quotidien The Herald, la hausse acceptée s'élève à 140%. La grève des commerçants et du patronat contre les tarifs douaniers élevés aux Comores, lancée lundi, a pris fin aujourd'hui après l'engagement du gouvernement d'ouvrir des négociations prochainement. Le gouvernement s'est engagé à négocier, a déclaré à Moroni le président de l'OPACO, Mohamed Ali, devant 700 membres de la principale organisation patronale. Il a cependant menacé de lancer un nouvel appel à la grève si les revendications n'étaient pas entendues.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un avion ramenant 200 Américains de la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l'épidémie du coronavirus, a atterri ce mercredi sur une base militaire américaine à Riverside en Californie, où ils vont être de nouveau examinés pour détecter d'éventuels symptômes. Les passagers évacués par le gouvernement américain ont été surveillés de près au cours du vol par des agents sanitaires. Plusieurs compagnies aériennes ont pris la décision de suspendre ou de réduire leur vol vers la Chine. L'Organisation mondiale de la santé a appelé la communauté internationale à agir face au virus qui a fait au moins 132 morts. L'OMS va à nouveau convoquer jeudi le comité d'urgence afin de déterminer si l'épidémie constitue une alerte internationale. Procès en destitution, le président américain Donald Trump a accusé son ancien conseiller John Bolton d'avoir multiplié les erreurs de jugement. Eric Manirakiza nous en dit plus.
Avant que les sénateurs chargés de le juger n'entament un exercice de questions-réponses très codifié, le locataire de la Maison-Blanche a taxé d'ingratitude son ex-conseiller à la sécurité nationale, l'accusant d'avoir multiplié les erreurs de jugement. Il m'a supplié pour que je lui donne son poste et il s'est fait virer parce que franchement, si je l'écoutais, on en serait à la 6e guerre mondiale, a asséné Donald Trump dans un tweet matinal. Il s'en va immédiatement, il écrit un livre faux et méchant, s'est-il encore indigné. Limogé en septembre, John Bolton, un néo-conservateur connu pour ses positions belliqueuses, s'apprête à publier un livre témoignage. Selon une fuite dans la presse, le président Trump lui aurait dit en août ne pas vouloir débloquer une aide destinée à l'Ukraine tant que ce pays n'enquêterait pas sur le démocrate Joe Biden. Ces allégations ont renforcé les démocrates qui réclament depuis des semaines la convocation de témoins. Les 53 sénateurs républicains ont jusqu'ici fait bloc autour du président, mais les révélations de John Bolton ont fait bouger les lignes. Mitch McConnell, leader de la majorité républicaine au Sénat, a reconnu mardi ne pas avoir suffisamment de voix pour bloquer la demande de témoins.
Certains pays arabes ont salué avec prudence le plan de paix américain pour le Proche-Orient au risque de contrarier les Palestiniens. Et Kiabadou nous en dit plus.
Les pays arabes alliés de Washington ont pesé chaque mot en réagissant. Riyad a dit apprécier les efforts américains tout en renouvelant son soutien inébranlable aux Palestiniens. Pour Abu Dhabi, ce plan constitue un important point de départ et il mérite un examen approfondi selon le Caire. Doha a salué à la fois ce plan et a insisté sur un État palestinien avec pour capitale Jérusalem-Est, tandis que la Jordanie a souligné que la seule voie vers la paix est la naissance d'un État palestinien sur les frontières de 1967. Ce plan a été dévoilé mardi à Washington par le président Donald Trump en présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui l'a accueilli avec enthousiasme alors que les Palestiniens l'ont rejeté avec force. Les ambassadeurs à Washington des Émirats arabes unis, d'Oman et du Bahreïn étaient également présents. Ce plan accorde de nombreuses concessions à Israël. Il lui donne notamment le droit d'annexer des colonies juives en Cisjordanie.
Le président américain Donald Trump a signé le nouvel accord commercial trilatéral négocié avec le Mexique et le Canada. C'est le dernier acte d'un long processus qui a commencé en janvier jusqu'à l'adoption finale par le Congrès américain mi-janvier de l'accord États-Unis-Mexique-Canada. L'armée syrienne a annoncé avoir repris Imaret al-Nouman après des semaines de bombardements sur une région du nord-ouest de la Syrie dominée par des groupes djihadistes et rebelles. Et en Italie, 9 membres d'une ex-communauté religieuse récemment supprimée par le Vatican sont soupçonnés d'avoir perpétré des violences sexuelles sur 2 mineurs à Prato, selon une enquête de justice révélée ce mercredi. 5 prêtres, un frère et 3 autres religieux, tous membres des disciples de l'Annonciation, auraient commis pendant des années des sévices à l'encontre de ces mineurs, ainsi que des violences sexuelles de groupe, a révélé le diocèse et la presse locale. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
Le Cameroun ordonne des mesures pour réduire les dépenses publiques. Yaoundé veut d'abord couper les contributions aux organisations internationales et qui s'élèvent à 10 milliards de francs CFA par an. Le deuxième volet concerne la réorganisation des ressources humaines, le développement du secteur numérique, le paiement des redevances dues à Cameroun Télécommunications et la gestion équitable de la fibre optique. Banco de Portugal a ouvert une procédure d'infraction administrative contre les banques angolaises BIC, BNI et BPA qui opèrent au Portugal en vue d'évaluer l'application des sanctions contre elles. En 2016, les inspecteurs portugais ont détecté de graves problèmes de blanchiment d'argent dans les dites banques, mais aucune n'a jamais été sanctionnée malgré l'ouverture d'une procédure toujours en cours. Pour terminer, confrontée à un contexte économique difficile, la chaîne panafricaine Africa News basée au Congo prépare une réorganisation destinée à accroître son rayonnement, mais qui pourrait avoir de l'effet sur les emplois. Euronews avait prévu de vendre la chaîne au groupe malgache Cipromad, mais la transaction a échoué. Lancée en 2016 et disponible dans 34 pays, Africa News emploie 32 personnes au Congo et des correspondants un peu partout sur le continent.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Kobe Bryant identifié parmi les 9 corps retrouvés.
Oui, les experts légistes ont officiellement identifié le corps du basketteur parmi les 9 sortis des débris de l'hélicoptère qui s'est écrasé sur une colline près de Los Angeles. Alex Villanova, shérif du comté de Los Angeles.
Ok, nous avons juste notifié le...
Nous avons notifié au bureau du comté de Los Angeles l'identité de 4 des victimes qui ont péri dans cet accident. Il s'agit de John Altobelli, Sarah Chester, Ara Zobayan, le pilote, et Kobe Bryant.
Kobe Bryant a pu être identifié grâce à ses empreintes digitales. En plus du basketteur, les corps de 3 autres personnes ont été identifiés. Il s'agit de John Altobelli, 56 ans, entraîneur de baseball, mort dans le crash avec sa femme Kerry et leur fille Alyssa, et Ara Zobayan. Les enquêteurs travaillent à l'identification des 5 défunts restants, parmi lesquels la fille de Kobe Bryant, Gianna, 13 ans, qui se trouvait dans l'hélicoptère avec son père. Les débris des victimes se sont éparpillés sur près de 200 mètres. Les enquêteurs ont évoqué une scène d'accident vraiment terrible et prévenu que le rapport final est attendu d'ici 12 à 18 mois.
Début réussi pour la Guinée équatoriale à la CAN Futsal au Maroc.
La Guinée équatoriale est la première équipe victorieuse de cette 6e édition. Le Salang s'est imposé hier face à l'île Maurice 4-2. Les 2 pays étaient à leur première participation à la compétition, mais visiblement, la Guinée équatoriale est plus préparée que son adversaire. Dans l'autre match du groupe A, le Maroc a dominé la Libye 3-0 et rejoint la Guinée équatoriale en tête du groupe. Les prochaines rencontres du groupe sont fixées au 31 janvier et au 1er février. La sélection marocaine affronterait la Guinée équatoriale tandis que l'île Maurice sera face à la Libye. Le groupe B entre en lice aujourd'hui avec l'Égypte qui défie la Guinée, puis l'Angola qui fait face au Mozambique.
Brigitte Kosgei et Timothée Cherouillot désignés athlètes de l'année.
La Kenyane Brigitte Kosgei, recordwoman du marathon en 2h14min4s, et son compatriote Timothée Cherouillot, dominateur sur le 1500 mètres en 2019, ont été honorés par la Confédération africaine d'athlétisme, une première dans l'histoire de l'instance continentale. Les espoirs féminins et masculins sont respectivement les Éthiopiens Goudaf Tesgueye et Lemisha Girma. Le meilleur entraîneur africain est Hussein Chibo, entraîneur en chef du demi-fond et fond de l'équipe éthiopienne. Le Marocain Mohamed Wahab, directeur de réunion des Jeux africains de Rabat, a été désigné meilleur officiel.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Fin de la visite de travail à Washington du président du Bénin, Patrice Talon, qui devait quitter aujourd'hui la capitale américaine pour Cotonou. Dans une interview avec Irénée Herman Ongbo, M. Talon a insisté sur la nécessité de la mise en œuvre des réformes en cours au Bénin, des réformes désapprouvées par certaines personnalités de la classe politique et de la société civile.
On ne peut pas se plaindre que nous manquons de tout et ne rien faire pour satisfaire ces besoins-là dans le temps. Le rôle d'un gouvernant, c'est faire les arbitrages nécessaires pour imposer la rigueur et les efforts qu'il faut à tout le monde afin qu'ensemble, nous fassions face à nos difficultés pour résoudre nos problèmes et investir là où nous avons des besoins.
Monsieur le Président, avez-vous l'impression d'être mal compris par vos concitoyens dans vos réformes?
Cela est possible. Mon rôle est de faire ce qu'il faut, mais en même temps d'expliquer pour avoir l'adhésion, la compréhension des uns des autres. Mais je n'ai pas à attendre que tout le monde soit d'accord, m'applaudisse avant d'avancer. Ce qui est bien et qui, scientifiquement, objectivement, est nécessaire, il faut le mettre en œuvre, même si c'est difficile, mais il faut avoir la capacité, mais je veux dire même aussi un peu le talent, de l'expliquer, de sensibiliser, afin que l'effort ne soit pas trop difficile et qu'il y ait une adhésion à cet effort-là.
Vous avez déjà convoqué le corps électoral pour les élections communales. Les Béninois peuvent-ils espérer des élections inclusives?
Mais les élections auront lieu et elles seront inclusives. Elles sont inclusives. Il n'y a aucun test qui interdit à qui que ce soit d'aller aux élections. Et d'ailleurs, je viens de vous le dire, nous avons les conditions ont été assouplies. Donc théoriquement, tout le monde devrait pouvoir participer aux élections, mais il faut avoir la volonté. On ne peut pas obliger les gens à participer à une compétition s'ils n'ont pas envie. Mais j'espère bien que l'ensemble de la classe politique sera de la compétition.
Pour terminer, Monsieur le Président, 2021 se profile à l'horizon. Serez-vous candidat ou tiendrez-vous parole de ne faire qu'un seul mandat?
J'ai répondu à cette question déjà à plusieurs reprises. 2021 loin, je suis dans l'action et avec beaucoup de volonté, d'énergie, de passion. C'est vrai que c'est dur, mais mon souhait est de faire des résultats. Ce qui se passera en 2021 dépend de tellement de paramètres. Et vous savez, si j'avais demandé que le Bénin adopte un mandat unique, c'est justement à cause de ça. Que chaque fois, on n'ait pas le regard rivé sur la prochaine élection, la prochaine séance présidentielle. Parce que cette attitude ne permet pas de travailler. Et je constate chaque fois, et vous me donnez raison, que sur cette question montre tout le côté pervers de ces échéances politiques qui empêchent les chefs d'État, les présidents de la République, de travailler avec volonté, détermination et amener leurs concitoyens à faire les efforts qu'il faut pour ne pas craindre de ne pas être réélu. Je n'ai pas cette préoccupation, ce n'est pas mon souci.
C'était le président béninois Patrice Talon.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, tension en Gambie. Plus de 130 personnes ont été interpellées lors d'affrontements entre forces de l'ordre et militants du mouvement Trias Jotna qui demandent que le président Adama Barrow se conforme à sa promesse électorale de quitter le pouvoir après 3 ans. Les autorités ont interdit le mouvement et fermé 2 radios privées. Des organisations de défense des droits humains dénoncent cette situation qui survient 3 ans après le départ de l'ex-président Yahya Jammeh, dont les partisans réclament le retour au pays. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
En Guinée, alors que la campagne pour les législatives du 16 février se poursuit, les leaders religieux demandent au président Alpha Condé de reporter ses élections. Dans la foulée, le Front national pour la défense de la Constitution a appelé à de nouvelles manifestations contre le projet de nouvelle constitution voulu par M. Condé. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Dans une déclaration, le Front National pour la Défense de la Constitution parle de morts et de 4 blessés par balle. Les opposants au projet de nouvelle Constitution se sont réjouis de la poursuite des manifestations dans 23 villes et à Conakry. Réunis en Zérikouri dans le sud du pays, les prêtres catholiques ont demandé au chef de l'État de respecter le principe de l'alternance. Dans la capitale guinéenne, les avis sont partagés sur le changement constitutionnel.
J'ai bien écouté ici la déclaration des prêtres de la forêt et de Zérikouri. C'est normal aujourd'hui que le président définisse ici sa position sur la question du troisième mandat, parce que la crise se trouve là-bas. On ne sait pas s'il va se présenter pour un troisième mandat. On ne sait pas si son objectif c'est de changer seulement la constitution et laisse le pouvoir à une autre personne. Un seul mot peut suffire aujourd'hui d'éteindre du secours les feux qui brûlent le pays. Quand le président dit aujourd'hui sa position clairement devant la population, oui, écoutez, moi, ma position aujourd'hui, c'est je vais seulement modifier ici la constitution, mais je ne vais pas me présenter. Non.
Il n'a jamais dit qu'il fera un troisième mandat. Il change la constitution pour tous les Guinéens, pas pour le président de la République. Le changement de la constitution, c'est pour tous les Guinéens. Ils n'ont qu'à accepter d'aller aux urnes.
Dans un pays de démocratie, la voie la plus sûre, c'est la voie des urnes. Donc, quand on n'est pas d'accord pour une nouvelle constitution, il faut aller voter contre la nouvelle constitution.
En plus de manifester contre tout changement constitutionnel, l'opposition guinéenne qui s'est retirée du processus électoral se dit décidée à empêcher l'organisation des élections législatives du 16 février prochain. Lundi, les leaders religieux, musulmans et chrétiens ont demandé au président Condé de repousser les élections législatives à une date ultérieure. Le report ou pas de l'élection des députés, un autre sujet qui fait débat dans la capitale.
La politique et la religion, c'est des ceux qui sont diamétralement opposés. Du côté social, s'ils ont fait une telle déclaration, on peut le comprendre dans ce sens. C'est une question purement politique.
Ah, pour moi, c'est une solution de reporter encore les élections législatives. Parce que vu aujourd'hui la tension, ce serait une manière encore d'affaiblir ses opposants à venir ici à table, à discuter à nouveau. L'opposition n'est pas totalement opposée ici à un dialogue. Mais c'est la situation qui impose.
Les partis politiques qui avaient boudé le processus électoral avaient saisi la Cour constitutionnelle pour un report, l'adoption d'un fichier électoral qui reflète le corps électoral, entre autres. Dans un arrêt ce mardi, la Cour a indiqué que les requérants n'ont pas qualité. En clair, ces partis politiques ne sont pas concernés par le processus électoral. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Mali, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako a accordé la liberté provisoire à l'ancien putschiste Amadou Aya Sanogo et à des co-accusés dans le dossier d'assassinat et de complicité d'assassinat de 21 bérets rouges. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit plus.
Dans la ville de Gao, l'information concernant la liberté provisoire accordée à l'ancien chef de la junte de 2012 au Mali est timidement évoquée par les jeunes de la cité des Askia.
Je pense que c'est une bonne chose si ça peut amener la paix, la cohésion sociale, la quiétude au sein de Bamako et du Mali. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un procès qui a trop tardé. On dit demain c'est le procès, un mois le procès, l'année prochaine le procès, mais le procès ne va jamais se tenir. Donc mieux vaut le libérer. Il a une famille quand même et il a des droits comme tous les Maliens. Je pense que c'est une bonne chose, mais c'est le mal qui lui. Après sa libération, qu'il sache ce qu'il doit faire. Il ne faut pas qu'il mette du sable aussi dans le couscous des Maliens.
En tournée avec le premier ministre malien dans la région de Gao, Maître Haruna Touré, du pool des avocats de Amadou Aya Sanogo, s'est réjoui de la décision de la chambre d'accusation.
C'est d'abord un sentiment de satisfaction. J'ai le sentiment qu'une attente que nous avons eue pendant 4 ans a été comblée, c'est-à-dire le respect de la loi, le respect du droit. Notre client, le général Sanogo, a été libéré aujourd'hui. Il a eu la liberté provisoire. Il méritait un droit de l'avoir il y a 4 ans parce que la détention provisoire conformément à la loi ne doit pas en cette manquette dépasser les 3 ans. Nous sommes satisfaits. Il est certainement satisfait, sa famille également. Et nous attendons la suite.
Pour d'autres personnes, Amadou Aya Sanogo et co-accusés seront jugés malgré cette liberté provisoire. Aboubakar Yoro Maïga.
Pour nous, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de dégâts dans le pays. Quelqu'un à travers lequel on a eu beaucoup de problèmes économiques.
beaucoup de problèmes aussi sur le plan sécuritaire. Mais c'est une décision de justice et les juges sont le seul maître de leur décision. On ne peut rien dire d'abord que c'est une liberté d'abord provisoire, pas une liberté totale. En tous les cas, ce jugement sera fait. Et je sais que lors de ce jugement, il va y avoir beaucoup de révélations qui vont permettre aux Maliens de comprendre. Beaucoup de choses sont passées de 2012 à nos jours.
En entendant ce jugement, les avocats de Sanogo saluent la décision de la chambre d'accusation car leur client vient de passer 7 ans en prison sans être jugé. Maître Tchessolo Konare.
Peut-être il y a une loi en vue à venir qui demande l'amnistie de tous les faits de 2012. Je ne sais pas si nous allons bénéficier de cela, mais dans tous les cas de figure, 7 ans de détention, la chambre d'accusation vient de faire droit au droit, c'est-à-dire droit à la liberté. Parce que conformément aux dispositions de l'article 135 de notre code de procédure pénale, en aucun cas le délai de détention provisoire ne peut dépasser les 3 ans. Ça fait 7 ans que nous sommes en prison.
La prise en charge des victimes sera faite sur la base d'une loi, nous explique Maître Aruna Touré.
Il y a également une loi d'indemnisation qui a été prise. Ça, c'est encore plus vieux que la loi d'amnistie. Et nous n'avons eu de cesse de dire à l'État du Mali de faire face à cette obligation d'indemnisation en faveur des victimes. Et nous partageons le sentiment que ces victimes-là méritaient également d'être dédommagées. C'est la loi. Donc il faut que l'équilibre soit maintenu, les victimes soient indemnisés et que les personnes qui ont été poursuivies à tort retrouvent leur liberté.
Certains parents des victimes nous ont fait savoir qu'ils ont été entrepris par le gouvernement malien en vue d'être dédommagés. Gao, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
La Chine emploie les grands moyens pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus alors qu'elle continue de se répandre dans le monde. Plusieurs villes chinoises sont en quarantaine et des dizaines de millions de personnes sont ainsi coupées du reste du pays. Arzuma Compaoré a joint Daniel Zogona, doctorant en sciences alimentaires dans la ville de Wuhan, mise en quarantaine.
Bon, les cours sont suspendus. Bon, je n'avais pas dit suspendus puisque c'était déjà la période des congés par rapport au nouvel an chinois. Donc, pour le nouvel an chinois, les cours ont été arrêtés depuis le 11 janvier et pas plus tard qu'hier, une note officielle est sortie pour dire que la reprise sera reportée. La reprise devait être prévue pour le 9 février. La menace, ça sera reportée à une date ultérieure. Il faut dire que Wuhan est une ville assez grande qui se trouve au centre de la Chine, qui comporte environ 11 millions d'habitants. Donc, généralement, le trafic, bon, un peu partout où il y a du monde.
Comment les habitants de Wuhan vaquent-ils à leur occupation depuis la mise en quarantaine?
Je peux dire, en cette période, c'est difficile de rencontrer qui que ce soit. Même les Chinois même ne sortent pas. Voilà, étant donné que nous avons reçu des consignes de ne pas sortir, puisque tout est stoppé en fait. La ville a été mise sous quarantaine depuis jeudi passé. Donc, ça fait que les transports en commun sont arrêtés, les boutiques sont fermées, les gens ne sortent plus. À moins qu'il y ait des endroits d'approvisionnement tels que certains supermarchés qui sont ouverts où il y a un check-in. Quand vous arrivez, on vous scanne pour prendre la température corporelle et aussi vérifier que vous portez des masques pour des mesures de sécurité. Donc ça fait qu'actuellement, on n'arrive même pas à se frotter aux gens parce qu'on ne sort pas et chacun est dans son coin. On suit les informations également par le biais des médias, la presse et également au niveau de notre université, il y a le Collège international qui coordonne avec les étudiants afin de nous apporter des informations sur la situation actuelle.
Et dans votre université, comment est le moral des étudiants internationaux?
Je peux dire qu'il y a la peur vu qu'on a dans les médias, jour après jour, le nombre de cas qui augmente. Donc, la peur se fait déjà ressentir. Maintenant, concernant le contrôle au niveau des universités, ils ont essayé de faire l'effort de nous fournir des masques qu'on porte pour se cacher la bouche et le nez. Et aussi, il y a une note qu'ils ont mise à la disposition des étudiants, c'est-à-dire les règles d'hygiène. Et on a un groupe aussi où les informations sont passées, là où ils demandent à tout étudiant de vraiment prêter attention aux informations et de prendre les choses au sérieux afin d'éviter le risque de contamination. Et jusqu'à présent, on rend grâce à Dieu, tous les Burkinabés se portent bien. Nous ne sommes pas assez nombreux, nous sommes 22 à Wuhan. Donc, on a les informations des uns et des autres et ça va. Au sein de notre université, avec les autres étudiants internationaux, ça va. Je pense que chacun aussi est un peu en collaboration avec ses compatriotes et aussi les membres de l'ambassade. Ce qui est le cas également pour les Burkinabés. L'ambassade nous a contactés, nous a adressé leurs mots d'encouragement, leur soutien et s'enquérit également de nos nouvelles. Donc, dans ce sens-là, on pense que ça va.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Cheikh Thierrot. À la présentation, Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com et suivre bien d'autres actualités. Très bonne soirée à toutes et à tous.